honey. Ah. Beaucoup d'enregistrements, ça c'est. C'est la technologie moderne, n'est-ce pas? Bon, donc nous venons au dernier message ce soir. Et c'est peut-être le message le plus sérieux. Parce que ça implique encore une fois notre vie. Notre vie. Et il s'agit de, encore une fois, de la séparation. Vous savez, la vie chrétienne est une vie continuelle de séparation et de purification. On ne peut jamais s'arrêter. On ne peut jamais se détendre. On ne peut jamais dire « J'ai déjà été sanctifié ». Alors, maintenant, quelle est ma condition maintenant? Comment suis-je devant le Seigneur aujourd'hui? C'est ça qui compte. Et donc, nous ne devons jamais devenir sans garde. Nous devons toujours être comme un combattant. Il est toujours en garde. Parce qu'il ne sait jamais quand l'ennemi va attaquer. Alors même quand quand le peuple d'Israël a construit la ville de Jérusalem, dans Néhémie, nous n'avons pas lu Néhémie sauf un chapitre. Mais si vous lisez Néhémie, vous saurez que le peuple d'Israël a bâti, rebâti la ville de Jérusalem avec un outil dans une main et une épée dans l'autre. Ça, c'est la vie d'un chrétien. La vie de quelqu'un qui veut suivre, qui se consacre au Seigneur. Jamais, n'est-ce pas, jamais en détente, jamais à l'aise. Mais toujours vigilant. Et donc, dans ce message, nous avons sauté plusieurs messages. Mais j'ai choisi pour le dernier, peut-être le message le plus pertinent. Dans ce message, nous nous situons dans l'histoire du peuple d'Israël. 80 ans après la construction du temple. Donc, mettez-vous, n'est-ce pas, à l'époque d'Esdras. Esdras n'est pas retourné dans le premier retour. Ni Néhémie. Le premier retour en 538 avant Jésus-Christ, c'était Zorobabel et Josué. Avec n'est-ce pas, la majorité des enfants d'Israël. Et puis des sacrificateurs. Des chanteurs. Si vous lisez le chapitre 2 d'Esdras, vous verrez la liste de tous ceux qui sont retournés. N'est-ce pas, pendant le premier retour, les servantes, les gardiens du temple. Mais Esdras n'est pas retourné. Parce que lui, il est retourné 80 ans plus tard. Donc il se peut. Donc il n'était pas encore né. À cette époque. Lui, il est retourné en 458 avant Jésus-Christ.
88
ans après là, n'est-ce pas, après le retour. Le premier retour. Et 57 ans après la reconstruction du deuxième temple. Donc, Esdras, il retourne avec 1554
personnes.
Vous vous souvenez quel était le premier? Pour le premier retour, combien y avait-il? Presque 50
000.
Mais avec Esdras, beaucoup moins.
1554.
Et alors? Et je suis presque certain que la plupart de ces gens-là n'était pas encore né pendant le premier retour. Ou au moins, s'ils étaient nés, ils devaient avoir presque 100 ans. Très âgés, très vieux. Donc, c'était une autre génération qui est retournée pendant le deuxième retour. Et Néhémie, il est retourné pendant le troisième retour, à peu près 15 ans après Esdras, ou 10 ans, 15 ans après
Esdras.
Donc Esdras et Néhémie étaient des contemporains. Mais il faisait partie de la deuxième génération ou d'une autre génération. Donc il retourne. Le temple est déjà rebâti. Mais il y a un problème. Vous voyez, et nous avons lu les versets. Et il semble que, n'est-ce pas, les enfants d'Israël avaient encore une fois, étaient encore une fois tombés en captivité, spirituellement, leur condition. Donc, ça veut dire que dans notre vie chrétienne, le retour, n'est-ce pas, au Seigneur, au bon terrain, et continuel, il ne s'arrête jamais. C'est pas parce que nous sommes retournés que tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de 80 ans? C'est une génération. Beaucoup d'enfants d'Israël, surtout les sacrificateurs, les lévites, les chefs, les magistrats, Ça veut dire les responsables. C'était marié avec les femmes du pays, des femmes étrangères. Et donc, celles qui habitaient, n'est-ce pas, en Israël, mais qui faisaient toujours partie des autres nations. La race sainte s'est jointe à la race, n'est-ce pas, impure. Et ça, c'était un problème. Donc, quand nous lisons ces versets, c'est juste pour vous signaler. Okay. Ceci n'a rien à voir aujourd'hui, n'est-ce pas, avec le mariage entre des races différentes. Je pense que ça c'est clair, n'est-ce pas? Non, j'ai pas besoin de. Mais pour ceux qui sont jeunes, n'est-ce pas? Ou si vous lisez la Bible, pour la première fois, non, ça ne va pas dire que, n'est-ce pas, que quelqu'un d'une certaine race ou d'un certain pays. Ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre, d'une autre race. Non, non, non. Non, Dieu, dans, n'est-ce pas, Dieu adore, n'est-ce pas, quand il y a le mariage entre deux, un frère et une sœur, qui appartiennent à des pays ou à des cultures différentes, ça c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Donc, soyons clairs là-dessus. Donc ici, la Bible, Dieu ne parle pas de ça. Il parle du mélange entre la race sainte, entre la nature de Dieu et la nature païenne. La nature qui est contre Dieu. Donc ici, les femmes étrangères représentent la nature qui est contre Dieu. La nature qui va vous éloigner de Dieu. Et donc, pratiquement, n'est-ce pas, si un frère se marie avec une femme qui n'est pas chrétienne, peu importe la race, ça n'a aucune valeur, non.
Mais
le point c'est que la femme ou le mari n'appartient pas encore au Seigneur. Ce rapport va vous éloigner de Dieu. C'est ce qui est arrivé. Quand il y a un mariage ou une liaison avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne suit pas Dieu, forcément, il y aura de l'idolâtrie. Ah, il y aura quelque chose autre que Dieu dans le mariage, dans la liaison. Et c'est ce qui est arrivé. Et Dieu avait au début, il avait averti les enfants d'Israël. Quand vous entrerez dans le pays, dans la bonne terre, vous ne vous marierez pas avec n'est-ce pas, les nations. Parce que vous allez courir après leurs idoles, leurs dieux. Ils vont vous influencer. Alors Dieu était très net. Vous n'aurez aucun lien, aucune liaison. Vous êtes une race pure. Une race sainte. Vous allez vous marier parmi vous. C'est-à-dire parmi la race sainte. Parmi la race qui est sanctifiée, qui connaît Dieu. Vous vous limiterez à ça. Et vous ne dépasserez pas les limites. Parce que dès que vous ferez ça, vous vous polluerez. Ah, vous vous mêlerez avec une autre race. Et vous allez perdre votre pureté. Et vous allez abandonner Dieu. Vous allez vous éloigner de lui. Et vous perdrez votre position. Vous deviendrez comme les autres. Vous ne serez pas différent. Il y aura une amalgamation. N'est-ce pas? Et voilà ce qui est arrivé. Pendant 80 ans, les enfants d'Israël se sont mariés. Ils se sont liés à des femmes étrangères. Ils ont eu des enfants. Et ils vivaient. Et ils servaient Dieu. Les sacrificateurs. Les lévites. Ils étaient là. Même les fils de, nous n'avons pas lu le chapitre 10 d'Esdras. Mais tous les gens, tous les gens sont, n'est-ce pas, sont listés, sont mentionnés. Même les fils de Josué. Josué, n'est-ce pas, sacrificateur. Ses fils se sont mariés. Vous voyez, le père était consacré. Mais les fils ne l'ont pas suivi. Et ils sont allés dans un autre sens. Les chanteurs, ben, tout le monde est mentionné. Dans la vie de l'église, toutes les fonctions, c'est pas, les chanteurs, les prophètes, les évangélistes, les serviteurs, les diacres, tout le monde est mentionné. Ils se sont alliés aux femmes étrangères. Et ils étaient contents. Ils vivaient. N'est-ce pas? Ah, ils avaient le temple, encore une fois. Ils avaient construit le temple, reconstruit le temple. Ils avaient les holocaustes, les sacrifices, les fêtes. Et ils avaient Dieu.
Et Maul aussi.
Pas de problème. Tout est beau. Quelle bonne vie. Quelle belle vie. La vie de l'église. J'ai ma famille. Avec des idoles. Mais moi, je sers Dieu. Mais à la maison, il y a encore quelque chose d'autre. Mais quand même, je me débrouille assez bien. Et je continue jusqu'à ce que Esdras vienne. Alors il faut des Esdras.
Amen.
Parce que les Esdras vont créer des problèmes. Les Esdras vont n'est-ce pas, remuer quelque chose.
Esdras,
c'était scribe. Et il était sacrificateur. En tant que scribe, il connaissait les Écritures. Son nom, vous savez ce que son nom veut dire? Ça veut dire Dieu est mon secours. God is my helper. Dieu est mon secours. Ça veut dire, ça c'est la définition d'Esdras. Il a étudié la parole, la loi de l'Éternel. Et il est retourné. N'est-ce pas? Avec plus de 1500 personnes. Et quand il est retourné, il a vu la situation. Et voilà la situation. Et donc, il a trouvé un remède. Il a apporté quelque chose. Et c'est ça, c'est ce dont nous avons besoin. La parole du Seigneur. Pour nous parler. Esdras représente une transition de la parole orale à la parole écrite. Parce que Esdras, il ne donne aucune nouvelle révélation. Il revient à ce qui a déjà été dit. Vous voyez, ça c'est Esdras. Jusqu'à Esdras. Jusqu'au temps d'Esdras. Dieu avait parlé. N'est-ce pas comme Hébreu le dit? Au Père. Par des moyens différents. N'est-ce pas? Il a par des vases différents. Moïse, n'est-ce pas? Josué.
Yeshua.
Voilà, David.
David.
Samuel. N'est-ce pas? Et puis, bien sûr, les prophètes Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, et puis les prophètes Daniel.
Daniel, prophète,
et les prophètes mineurs, jusqu'à Malachi, Agé, Zacharie et Malachi, les trois derniers prophètes, ont prophétisé pendant n'est-ce pas, le premier retour, et aussi pendant l'époque de Néhémie. Mais après Malachi, c'est la fin de l'Ancien Testament. Dieu ne parle plus. On peut dire. Bon, je dois me corriger. Dieu ne donne pas plus de révélations. Jusqu'à ce que le Nouveau Testament vienne. Mais Esdras est là pour faire revenir le peuple à ce qui a déjà été écrit. On revient au début. Et ça c'est le besoin, notre besoin de l'Église. Nous avons besoin de la parole constante. La parole écrite. La parole qui est déjà là. Comme on dit, la Bible. Qu'est-ce que Esdras a fait? Il n'a pas fait grand chose. Il n'a pas donné de grands messages. Il a tout simplement ouvert la Bible. Et il a lu. N'est-ce pas? Il a lu la Bible. Il a lu la Bible et les Lévites ont expliqué. Ils ont donné le sens. Alors, pour nous séparer, de tout mélange. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a du mélange? Parce que nous ignorons la parole. La parole est tombée en désuétude. Moi, je voudrais demander, n'est-ce pas, combien de temps est-ce que nous lisons la Bible? Combien un frère qui a une certaine manière de vivre, qui a une double vie, combien de temps passe-t-il dans la parole? Je vous dis, presque rien. Aucun temps. Non, c'est... On va... La manière de vivre détermine comment nous venons à la Bible. Une telle manière de vivre ne va même pas permettre à la Bible d'entrer dans la vie. Non, frères et sœurs, nous avons besoin d'un changement. C'est la séparation. La séparation, c'est, ce n'est pas quelque chose de léger. La séparation du monde, n'est-ce pas? Ça commence avec la parole. Ça commence avec une décision de venir à la parole. Vous voulez vous arrêter de boire. D'avoir une vie d'alcool. De vous arrêter, n'est-ce pas, d'aller à la barre. Vous avez besoin d'un changement de régime. Et ça, c'est la parole. Parole de Dieu. Parce que, et si chacun d'entre nous, nous pouvions nous demander. Les moments où nous étions loin du Seigneur, dans notre vie, où nous menions, nous avions une certaine manière de vivre, la parole était très très loin de nous, presque oubliée. On ne pensait même pas à la parole. Je me rappelle, n'est-ce pas? Bon, et vous vous rappelez aussi les jours où nous étions dans la parole. Même toute la journée. Le matin, n'est-ce pas, nous l'ouvrions. Seul ou avec d'autres frères. Nous lisions la parole. Nous prions certains versets. Puis nous partions à l'école ou au travail. Avec une certaine joie, n'est-ce pas? La parole qui demeurait en nous. Et qui restait en nous. Et puis le soir. Nous venions à la réunion. N'est-ce pas? Avec la parole. Voilà. Et donc, même, il y a des chansons, n'est-ce pas, qui disent ça. Nous venons à la réunion, n'est-ce pas, en apportant quelque chose de Christ. Pourquoi? Parce que nous avions la parole qui demeurait en nous. Alors nous venions à la réunion avec quelque chose en nous. Mais il semble que ces jours-là sont tellement loin. Ah, maintenant c'est quoi? Je me réveille. Je me prépare. Je cours au travail. Au travail, et je vis ma vie comme tout le monde. Et puis le soir, je vais quelque part. Je choisis, n'est-ce pas? J'ai un choix. D'aller quelque part avec des camarades, avec des amis. Pour passer la nuit comme je veux. Et rentrer à la maison chez moi. Et ma femme me demande, mais où est-ce que tu as été?
Bah,
je suis là maintenant. Moi je suis rentré. Où est mon souper? Où est mon souper? Vous voyez, il n'y a aucune. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes tombés dans une certaine manière de vivre. Et nous sommes éloignés de la parole. Même quand nous entendons la parole, ça n'a pas vraiment, ça ne nous touche pas. Nous avons déjà écouté ça. N'est-ce pas? Ça, oui, nous avons déjà lu, nous avons déjà écouté des messages. Mais maintenant, je suis plus âgé. Et ma vie est différente. Je m'intéresse plus à ça. J'ai déjà fait ça.
Bon, ouais, bon.
Et bon, alors, je n'en ai plus besoin. Ça, c'est une situation pitoyable. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre zèle, notre enthousiasme, notre soif pour la parole? Voilà pourquoi il y a tant de mélanges. Sans la parole, forcément, tout ce mélange doit venir. Et on n'y peut rien. N'est-ce pas? Ces enfants d'Israël, ils étaient mariés. Pas facile. Pas facile de résoudre la situation. Esdras, n'est-ce pas, il a fait, dans le chapitre 10 d'Esdras, il s'est rassemblé avec chaque famille. Et en principe, n'est-ce pas, en principe, le but, l'objectif, c'était de renvoyer les femmes étrangères. Mais c'est pas facile. Quoi, vous êtes déjà marié? Maintenant vous allez renvoyer la femme et les enfants. Qu'est-ce qui va se passer avec les enfants? Donc Esdras a jugé avec d'autres cas par cas, n'est-ce pas, individuellement. Il a passé beaucoup de temps à résoudre chaque situation, famille par famille, à des heures fixes, dans des villes différentes, là où ils habitaient. Vous voyez, ça c'est Esdras. Pour aller, n'est-ce pas, famille par famille, pour faire paître, pour s'occuper, pour visiter, rendre visite, n'est-ce pas, aux frères et aux sœurs, pour les attirer vers le Seigneur, pour regagner leur consécration, pour les réchauffer, pour les encourager, pour les exhorter à résoudre le mélange. Donc, dans la vie de l'Église, nous avons besoin des Esdras.
Amen.
Pour se lever. Pour aller de maison à maison. Avec la parole. Pour ranimer les frères et les sœurs. Ça, c'est un travail, une fonction essentielle. Alors, mais pour qu'il y ait des Esdras, il faut de la consécration. Les Esdras ne se produisent pas comme ça. Nous ne connaissons pas beaucoup, n'est-ce pas, la vie d'Esdras. Mais quand il était jeune, sûrement, il a passé sa vie, il a passé du temps dans la parole de Dieu. Pendant sa période, n'est-ce pas, cette période en Babylone, n'est-ce pas, Esdras était là. Mais quand Daniel, il s'est préparé pour devenir scribe. Il était devant Dieu. Personne ne le voyait. Il était caché. On ne sait même pas d'où il vient. C'est-à-dire qu'il apparaît dans le chapitre quoi, 7, je pense. Et il commence à opérer. Mais on ignore ses origines. On ignore comment il a vécu sa vie. C'était une vie cachée. Une vie de résolution. Je me donne à Dieu. Là où je suis, je vais me faire équiper. Je vais connaître la parole. Je vais m'enfoncer dans la parole. Ce qui a déjà été écrit, je veux le connaître. Parce que Dieu a déjà parlé. Alors, il n'a pas cherché de nouvelles révélations. N'est-ce pas? Mais ce que Dieu avait déjà donné, il a étudié. Il s'y est enfoncé. Et Dieu lui a parlé à travers la parole de retourner, n'est-ce pas, et d'amener avec lui d'autres pour restaurer la situation. Il a vu le besoin. Voilà, n'est-ce pas, un frère avec discernement. Il est venu, il a aperçu la situation tout de suite. Et il s'est repenti. Ah, nous avons lu sa repentance. Wow, quelle prière, n'est-ce pas? C'est vraiment une prière. Ah, un cri, n'est-ce pas? Un cri à Dieu. Seigneur, encore une fois, Seigneur, tu as fait tant de choses pour nous. Nous étions en captivité, tu nous as ramenés. Tu nous as donné un lieu, n'est-ce pas, de refuge. Nous voilà, n'est-ce pas, avec une nouvelle vie. Et maintenant, nous allons commencer de nouveau à vivre selon notre gré. Est-ce que nous n'avons pas appris notre leçon? Qu'est-ce qui ne va pas? Où sommes-nous? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Toi, tu as fait tant de choses pour nous. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de ta grâce, de ta miséricorde. Qu'est-ce que nous allons faire? Ça, c'est la repentance. N'est-ce pas? Ça, c'est le début de la séparation. Esdras a pris l'initiative. Mais lui, il n'était pas impliqué. Il est venu de l'extérieur. Il s'est trouvé en plein milieu de la situation. Lui, il n'avait pas épousé une femme étrangère. Alors lui, il était, ça va, n'est-ce pas, ça allait avec lui. Mais ça c'est un vrai un frère qui un dirigeant, n'est-ce pas, un responsable.
Et Yannick prend là
un serviteur.
Docteur là,
il prend la responsabilité.
Et Rondo Dassi,
il entre tout de suite dans la situation.
Et Guerre non non miam.
C'est comme si lui, il était coupable.
Donc on va se dire, il y a ton major.
Parce qu'il dit nous. Nous, nous, nous.
Elle avait globé mia, mi, mi, mi.
C'est pas le peuple.
Mais quand il globe du con.
C'est nous.
Mi.
Donc y compris lui-même.
Et comme il y avait un temps à l'aime.
Voilà. Donc il faut des Esdras.
Et il y a Esdras le mia.
Amen. Où sont les Esdras, n'est-ce pas? Pour nous se séparer.
Benemia Clara.
Alors. Il a lu la parole.
Et comment le nyala?
Depuis le matin jusqu'au milieu de la journée. Ah, quelle était la dernière fois que nous avons lu, que moi j'ai lu la parole depuis le matin jusqu'au milieu de la journée? Ah, mais je n'ai pas le temps. Je suis trop occupé.
Mais ja.
Ah oui, je faisais ça quand j'avais il y a 30 ans. Bon. Voyez, nous avons des excuses. Nous n'avons pas le temps. Mais nous avons beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses. Ah, mais lire la Bible pendant 3 heures. Pendant 3 heures, 4 heures, ça c'est trop. Ok. Mais Esdras a aussi lu la Bible pendant un quart d'heure. Un quart de la journée. Oui. C'est ça, un quart de la journée. Oui. Il a payé le prix. Ce n'est pas bon marché. C'est cher. Oui, il y a un prix à payer. Il y a quelque chose. N'est-ce pas? Ça, c'est la consécration. On perd quelque chose. On perd la vie d'âme. Sur la croix, encore une fois, sur l'autel, notre vie d'âme est crucifiée.
Et
on la perd pour gagner le Seigneur. Sinon, on
ne
peut pas. Donc, pour avoir cette consécration, il faut faire une décision. Amen. Autrement, je ne vois pas d'autre moyen. La Bible, n'est-ce pas, nous présente les faits. Se mettre à la lecture de la Bible, apprécier la Bible, ça demande une consécration. Seigneur, ça c'est ton livre, c'est là où tu as parlé. Comment est-ce que je vais te connaître si je ne connais pas ta parole? La parole est la manière et ce que Dieu nous a donné pour le connaître. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est la parole écrite. La parole constante. Voilà le fardeau ce soir. Beaucoup de gens cherchent le Seigneur. Ah oui, il cherche la parole du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? où est-ce qu'il veut que j'aille? Dans quelle dénomination est-ce qu'il veut que j'aille? Où est-ce qu'il veut que je me rassemble? Quel don est-ce qu'il m'a donné?
Hein?
Quelle est ma fonction? Qu'est-ce que je peux devenir en tant que chrétien dans l'église? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Mais on veut quelque chose de facile. On veut des solutions faciles. On veut même des directions, n'est-ce pas, faciles. On cherche quelque chose du ciel, n'est-ce pas, une vision. Ah, si Dieu pouvait me parler. Alors, il y a beaucoup de gens qui apprécient les visions. J'ai vu une vision de Dieu. N'est-ce pas, où j'ai vu une vision, n'est-ce pas, là où Dieu m'a dit quelque chose. Il a même... bon... Il a même dans une vision, il a même montré, n'est-ce pas, quelques versets. Bon, d'accord. Qui sommes-nous, n'est-ce pas, pour nier ça? Dieu peut parler, oui. Dieu n'est pas limité. Donc, mais Dieu a déjà tout donné ici. Alors, s'il y a des versets, n'est-ce pas, que Dieu... Ok, d'accord, bon, voilà les versets, il faut les lire. Et il faut ouvrir la Bible. Mais on a ce concept, n'est-ce pas, mystérieux de Dieu. Dieu va faire quelque chose de miraculeux dans ma vie. Et à ce moment-là, je vais l'écouter. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de l'histoire de l'homme riche et de l'homme pauvre dans le Nouveau Testament. Quand l'homme riche est mort et il est allé dans l'enfer, n'est-ce pas, il a vu Abraham. Mais Abraham était loin. Il y avait un quoi, comment ça s'appelle, un fossé, ouais. Voyez, il y aura une séparation ce jour-là. N'attendez pas ce jour-là. Parce qu'il y aura une grande séparation. N'est-ce pas? Mais pourquoi attendre? Il faut se séparer aujourd'hui. Mais dans l'histoire, il y avait un fossé infranchissable. Alors donc, Abraham, l'homme riche, il a demandé à Abraham, n'est-ce pas quoi, d'envoyer l'homme pauvre, n'est-ce pas, avec, pour mettre une goutte d'eau sur sa langue. Et puis il a dit, ah mais j'ai des frères qui sont toujours vivants. Va auprès d'eux, n'est-ce pas, pour leur dire la vérité. Et Abraham a dit, mon fils, même si quelqu'un ressuscité de la mort pour leur parler, ils ne croiront pas. Ils ne croiraient pas. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est-à-dire que Dieu a déjà parlé. Il a déjà parlé. N'est-ce pas? Alors, si vous ne l'écoutez pas ici, vous n'allez pas l'écouter quand il vous apparaît. Mais, voyez, non, ça ne marche pas comme ça. Vous vous trompez. Oh, Dieu m'a apparu dans une vision. Et puis, ok. Est-ce que ça va durer? où Dieu m'a parlé à travers tel ou tel soi-disant prophète. Bon, lui, c'est vraiment quelqu'un qui m'a guéri, qui m'a aidé. Bon, mais pourquoi pas venir à la parole, n'est-ce pas? Parce que la parole a tout.
Amen.
Tout ce dont nous avons besoin.
Amen.
Pourquoi chercher ailleurs? Qu'est-ce que Hébreux dit? Je vous lis le verset parce que je ne veux pas le citer mal. N'est-ce pas? Oui. Donc, Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils.
Amen.
Ok.
Le mangolito, nya glori la oji, zigede, le nya, omevi gede, omela, oponu, ple, miao, ha, le nkeke, mamle, siao, me, le ziam.
Amen. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Et dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Ça veut dire que c'est dans le passé. Au passé composé, n'est-ce pas? Dieu nous a parlé. Vous voulez la parole de Dieu?
Ben,
Dieu vous a parlé déjà. Alors, c'est là. Vous savez, vous voulez savoir quoi faire? Comment vivre la vie, votre vie? C'est là. On n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'être. On a. Tout est là. Vous savez très bien quoi faire. Comment vous séparer? Comment nous séparer? La Bible nous donne, n'est-ce pas, la direction. Voilà. Comment résoudre une liaison? Comment résoudre une manière de vivre qui n'est pas digne du Seigneur? La parole est claire.
Amen.
Revenons à la parole.
Amen.
Revenons encore et encore à la parole. Esdras, c'est la transition. De la parole orale à la parole écrite.
Vous
voyez, et il est curieux, il est très curieux que dans Esdras et Néhémie, et aussi dans Esther, ces trois livres chronologiquement sont les, je dirais, oui, les derniers livres de l'Ancien Testament. Chronologiquement, dans l'histoire, Dieu, bon, Esther, Dieu n'est même pas mentionné. Dans Esther, Dieu, le nom Dieu n'est même pas mentionné, n'est-ce pas? Mais dans Esdras et Néhémie, est-ce que vous voyez, est-ce que vous remarquez aucun un endroit où Dieu parle. Je veux dire, où ça dit que Dieu parle. J'ai pas remarqué. Et c'est ce qui m'a frappé. Dans les autres livres, n'est-ce pas? Oui, Dieu a, bien sûr, il a parlé à Jérémie, il a parlé à
Ésaïe.
Il a dit, n'est-ce pas, et la parole de l'Éternel vint à tel ou tel. Mais dans Esdras et Néhémie, on ne voit pas ça. Ça
ne
veut pas dire que Dieu est absent. Mais ça veut dire que Dieu leur a parlé. Mais il leur a parlé par la parole. Et dans le principe du Nouveau Testament. N'est-ce pas? Donc, quand Esdras a vu la situation, la Bible ne dit pas que Dieu lui a dit de rassembler le peuple, de rassembler le peuple, n'est-ce pas, de lire la parole, de jeûner, d'avoir un jour de repentance. Dieu n'a pas dit à... La Bible ne dit pas que Dieu a dit à Néhémie de sortir, de partir, n'est-ce pas, de quitter le roi. Il n'a pas dit à Néhémie quoi faire quand il est arrivé à Jérusalem. Il a vu les ruines, toutes les décisions qu'il a faites, n'est-ce pas, tous les chemins qu'il a suivis pour visiter, pour corriger les nobles, les gens, n'est-ce pas, ceux qui ont profité des pauvres, n'est-ce pas. Dieu, apparemment, Dieu n'a pas dit, et la parole de Dieu vint à Néhémie. Non, parce que à ce moment-là, Dieu avait déjà parlé. La révélation, n'est-ce pas, était complète de l'Ancien Testament. Et donc, maintenant, Dieu va opérer. Il va se manifester dans des vases qui connaissent sa parole, qui connaissent ce qu'il a déjà donné. Et donc, ça c'est notre situation. Comment est-ce que nous pouvons suivre le Seigneur? Ce n'est pas par la parole du Seigneur qui vient à, n'est-ce pas, qui vient à tel ou tel. Mais c'est la parole de Dieu que nous lisons, que nous examinons, que nous touchons, et Dieu nous parle. Mais c'est basé sur la parole écrite. Aucune parole, il n'y a nulle parole de Dieu toute parole de Dieu est basée sur la parole écrite. Alors, nous avons la parole écrite comme notre mesure pour mesurer toute nouvelle révélation, toute nouvelle chose qui est, n'est-ce pas, qu'on dit, n'est-ce pas, révélée. Nous avons les Écritures pour substantifier, n'est-ce pas, pour prouver, éprouver la validité de toute révélation. Donc, ne cherchez pas ailleurs tel ou tel prophète. Il a dit ça. Il a dit ça. Tel ou tel guérisseur. Il fait ça. Va. Revenons à la Bible. Amen. La Bible est notre standard. Il est notre, n'est-ce pas, notre mesure. Et donc, voilà l'importance d'Esdras. Il a amené le peuple à lire ce que Dieu avait déjà donné. Et ça, c'est notre cas aussi. Pour les enfants d'Israël, pas pour la première fois, la Bible était comme un nouveau livre.
N'est-ce
pas, un peuple qui, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, pour le peuple de Dieu qui connaissait Dieu depuis presque 2000 ans, la Bible était devenu un nouveau livre. C'est comme si le peuple n'avait jamais entendu les paroles. Et nous aussi, quand nous lisons la Bible, c'est comme si la Bible, si notre cœur est ouvert, si notre cœur est à soif, la Bible deviendra un livre que nous n'avons jamais lu. Bien que nous l'ayons lu dans le passé, mais cette fois, si, quand je le lis, quand je la lis, c'est comme si je n'avais jamais lu. Voyez, elle devient fraîche, nouvelle. Je vois des choses que je n'ai pas vues avant. Il y a de la révélation. Il y a des directions pour changer ma vie, pour changer la façon dont je vis ma vie. Donc, vous voulez savoir comment être un bon mari? Comment, n'est-ce pas, avoir un rapport avec votre femme? Lisez la Bible. Amen. La Bible a tous les critères pour nous amener dans ce sens-là. Est-ce qu'on a besoin d'autres choses? Bon, je ne dis pas que, qu'il faut pas, n'est-ce pas, qu'on n'a pas besoin des conseils, mais ne vous fiez pas aux conseils. Les conseils peuvent aider comme un soutien. Mais l'essentiel, c'est la parole. Cherchez le Seigneur d'abord, avant d'aller, n'est-ce pas, chercher des conseils. Oui, nous avons besoin d'autres frères, d'autres sœurs pour nous aider. Oui, et donc il ne faut jamais les négliger. Alors, un jeune, n'est-ce pas, qui a besoin, n'est-ce pas, il veut savoir, par exemple, comment est-ce que je peux trouver une femme? Bon, pas mal d'aller auprès de quelqu'un qui est plus âgé. N'est-ce pas? Mais équipez-vous de la parole.
Amen.
Que la parole demeure en vous, en nous. Donc, nous avons lu 1 Jean, n'est-ce pas, les derniers versets que nous avons lus. 1 Jean, chapitre 2. Je vous écris, jeune Jean, parce que vous êtes fort. Et la parole demeure en vous.
Et
vous avez vaincu le malin.
Voyez,
donc la parole doit demeurer en nous. Jeune Jean.
De Capio à l'autre Soron.
Pourquoi est-ce que vous êtes fort? Comment vaincre le malin? La parole doit demeurer en vous. Quand la parole demeure en vous, vous saurez qui épouser. Vous aurez la force de vaincre la tentation d'épouser quelqu'un qui n'est pas pour Dieu. Vous aurez la force de résister. De dire non, je ne m'allierai pas
à
une femme étrangère. Étrangère à Dieu. N'est-ce pas? Quand j'étais jeune, n'est-ce pas, quand j'étais pas marié, j'ai dit à ma mère, parce que ma mère s'inquiétait. Parce que j'étais pas marié. Et donc, et j'avais, 26, 27 ans, 28 ans. Alors, et à cet âge, n'est-ce pas, il faut se marier. Les parents commencent à s'inquiéter.
Oh.
Et moi, j'étais seul, pas marié, j'aimais le Seigneur. J'ai vu des sœurs, oui. Mais jusqu'à ce moment-là, n'est-ce pas, rien ne s'est passé. Alors, ma mère a. Donc, elle avait certaines propositions. Ou suggestions. Et elle a suggéré toujours une sœur. Parce que ma mère aimait le Seigneur. Et mon père aussi. Donc, ils m'ont encouragé toujours à me marier avec une sœur. Mais la sœur était d'ailleurs. Et à l'époque, n'est-ce pas, je ne pensais pas que cette sœur. Avait la même, ce que moi je voyais, la même vision. Alors donc moi, j'ai dit, je préfère me marier avec une sœur dans l'assemblée, là où j'étais. Mais le problème c'est que je ne pouvais pas la trouver. et apparemment elle, n'est-ce pas, ne pouvait pas me trouver. Donc je suis resté comme ça jusqu'à l'âge de 30 ans. Quand le Seigneur a arrangé, n'est-ce pas, à travers ma mère, qui était un instrument de Dieu, n'est-ce pas, de là où, n'est-ce pas, j'ai trouvé une sœur qui était vraiment la sœur que Dieu a choisie, n'est-ce pas? Mais j'ai attendu le Seigneur parce que je ne me suis pas pressé pour me marier. Donc voilà un peu, n'est-ce pas, mon témoignage Restons fidèles à ce que le Seigneur nous a montré. La parole doit demeurer en nous. Si la parole est notre contenu, elle va nous guider. Elle va devenir une colonne dans notre vie. Et donc, la parole ne permettra jamais le divorce. Et donc, je dis clairement, n'est-ce pas, si la parole demeure en moi, si la parole demeure en nous, même le mot divorce n'entrera même pas dans notre tête. Parce que nous sommes réglés par la parole. Nous ferons tous, tout ce que nous pouvons faire pour préserver notre mariage, pour ne pas perdre notre épouse. Si la parole demeure en nous, nous devons avoir cette clarté, cette colonne en nous. Autrement, nous serons bouleversés, nous serons, n'est-ce pas, et beaucoup de choses viendront dans notre vie pour nous éloigner. Que la parole demeure en nous. Jeune Jean, n'est-ce pas, je vous écris parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Voilà mon fardeau. Que le Seigneur puisse nous parler par sa parole, que sa parole devienne notre source, notre contenu, le moteur de notre vie dans toutes nos décisions. C'est la parole qui me guide. C'est la parole qui me fait revenir à ce que j'ai vu du Seigneur, pour que je puisse vivre une vie digne de lui. Amen.
Amen.
Amen.